Frédéric Mitterrand, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me consacrer un peu de votre temps. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation du grand poète latin Terence. Un jour, on lui demandait qui il était et voilà quelle fut sa réponse. « Je suis un homme, rien de ce qui touche à l'humanité ne m'est étranger. » Et vous, Frédéric Mitterrand, qui êtes-vous?
Mais je ne sais pas. Vous me posez une question, là, je ne peux absolument pas vous répondre. C'est beaucoup trop compliqué. Et quant à la réponse de Terence, bon, l'a-t-il vraiment faite? Peut-être. Le fait de l'avoir choisi explique quelque chose qui vous concerne, vous. Sa réponse est pleine de l'humanisme auquel nous assistons partout et qui est en fait si peu respecté. Donc, voilà, bon, vous l'avez choisi. Ça m'indique déjà un peu quelles sont vos préoccupations. Mais moi-même, je suis absolument incapable de répondre comme lui.
D'accord. Alors, très rapidement, quelles sont, pour les milliers de jeunes qui nous écoutent, quelles sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Très rapidement.
J'ai eu des cinémas. Je montrais des films d'avant-garde et de répertoire pendant 15 ans. J'ai fait beaucoup d'émissions de télévision, qui étaient des émissions sur le cinéma d'abord, et ensuite qui étaient des émissions documentaires sur l'histoire contemporaine, en me servant de documents d'archives contemporaines. Et puis j'ai fait des films, et puis j'ai écrit des livres, et puis voilà.
Une grande carrière. Alors vous vous définissez en effet, vous avez avec tout ce que vous avez fait, je me permettrai de vous définir comme un homme de culture. Qu'est-ce que la culture pour vous? Comment la définissez-vous?
Vous savez, tant de gens ont donné des définitions de la culture. La culture, c'est comme le charme. C'est une question où il y a 1000 réponses différentes et aucune ne permet vraiment de trouver la bonne. La culture, c'est ce qui permet à chaque journée d'avoir un peu plus de sens. Je ne sais plus qu'est-ce qui a dit ça, je crois que c'est Malraux, Duhamel. Non, Malraux n'a pas dit ça, je crois que c'est Duhamel qui était un très bon ministre de la culture. Voilà. Et puis c'est très très vaste. Tant de choses ont une valeur culturelle. Si on devait définir d'une manière plus précise, peut-être qu'on dirait que c'est ce qui permet d'éveiller en permanence la curiosité des choses, sur les choses.
Voilà. C'est une belle définition. Et cette curiosité, vous qui êtes un homme cultivé, est-ce que par la culture...
Je ne suis pas très cultivé. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Vous êtes professeur de philosophie, je ne connais rien à la philosophie, par exemple. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je ne connais rien aux mathématiques, je suis nul.
Moi non plus, on a ce point commun.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je connais bien l'histoire, mais je mélange un peu quand il s'agit du Moyen-Âge, voire même quand il s'agit de la Révolution française.
D'accord. Et alors, est-ce que pour vous, la culture, c'est une sorte de miroir pour l'humanité, pour l'homme?
Oui, mais ça peut être un miroir, c'est un miroir déformant, parce que, par exemple, Heydrich, qui était responsable de la mort de millions de gens, qui était un monstre, jouait très bien du violon, adorait Bach, et était capable d'avoir une conversation brillante quand il s'agissait de musique.
De musique, oui.
Donc quand il se regardait, il devait considérer qu'il était cultivé. C'était un miroir déformant parce qu'il était cultivé, mais c'était un monstre.
D'accord, oui. Et alors, il n'y a pas de culture sans nature, ni de nature sans culture. Et comment
Attendez, attendez,
réagissent?
attendez, attendez. Ne me bombardez pas d'axiomes comme ça. Il n'y a pas de culture sans
Sans
nature.
nature, parce que
Qu'est-ce que vous voulez dire
le
par là?
fondement, ben voilà, j'allais poursuivre avec la citation d'Edgar Morin.
Oui.
Et voilà ce qu'il souligne, l'homme est un être culturel par nature, parce qu'il est un être naturel par culture. Les deux s'emboîtent.
Oui, bon.
Comment réagissez-vous à cette...
Edgar Morin est devenu une vache sacrée maintenant. Parce qu'il a la chance d'avoir vécu jusqu'à 100
C'est
ans,
ça, il
donc à
fête ses
partir de ce
100 ans.
moment-là. Bon, tout ce qu'il dit récemment ne m'inspire pas énormément. Hein. Je trouve ça intéressant, mais. Et là, je dois dire, je ne comprends pas très bien là, ce que signifie la phrase.
D'accord. Que veut dire, quelles sont vos, je dirais, vos sources d'inspiration culturelle? Edgar Morin ne vous inspire pas trop, mais alors quelles
Non, non,
sont
mais j'ai
d'autres...
de la sympathie pour Edgar
Oui, oui,
Morin.
oui.
Hein. La sympathie pour Edgar Morin, voilà. Quels sont mes centres d'intérêt culturel? C'est un problème pour moi, tout m'intéresse.
On a ce deuxième point en commun.
Voilà, donc je suis il m'est très difficile de faire une hiérarchie. Et tout m'intéresse, mais beaucoup de choses aussi m'intéressent pas longtemps, quand je m'aperçois qu'elles ne sont pas si intéressantes que ça. Mais il
Oui.
faudrait des exemples, j'en ai pas là, à vous
D'accord,
donner.
voilà, j'allais vous poser, avez-vous des exemples? Alors, Frédéric Biderand, y a-t-il une... Pouvons-nous définir, selon vous, une bonne culture comme une mauvaise culture? Y a-t-il des cultures qui, finalement, qui détruisent d'une certaine manière
On parlait du nazisme tout à
l'humanité?
l'heure.
Oui.
Le nazisme était une
Oui.
culture de la force, du paganisme, etc. Et c'était une culture mortifère. Staline était cultivé, il allait à l'opéra. Il téléphonait le matin à Bulgakov pour lui dire « Je suis désolé, on a été obligé d'emprisonner tel ou tel », qui était d'ailleurs souvent fusillé quand il
Oui,
appelait.
oui.
Et il était cultivé. Il y avait une culture qui était devenue totalement paranoïaque. Donc voilà, je pense que ce sont des questions qu'il faudrait poser à un autre centenaire pour qui j'ai une admiration infinie, qui est Peter Brook, hein, quand il fait sa pièce sur les Zik, c'est-à-dire cette peuplade africaine où tout est cruauté. Et il arrive à trouver en eux, malgré tout, une étincelle de culture qui a été totalement dévoyée par les conditions de vie dans lesquelles il se trouve. Ça, c'est intéressant. Mais les Zik ont une culture qui est une culture de la méchanceté, du sarcasme, du mal, etc. Et au fond de tout ça, il reste encore quelque chose. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quand. Au-delà de la barbarie, il reste quelque chose. Je pense que chez les nazis, il restait vraiment pas grand-chose. Ou plutôt, tout était dévoyé. Ça, c'est intéressant, la manière dont les choses sont dévoyées. Actuellement, par exemple, il y a des grands débats sur le carbone, sur l'écologie, sur la destruction de la planète, etc. Là, ce sont des sujets très intéressants puisque c'est vrai qu'il y a de la part des hommes une extraordinaire capacité à abîmer la planète, voire même à la diriger vers une certaine destruction. Mais la manière dont c'est abordé, traité, dont ça devient une sorte de nouvelle religion et dont on se retrouve obsédé par cela, me semble une perversion de la culture. J'ai dîné récemment avec le patron d'une très grande entreprise, et c'était un robot. Un robot de la taxe carbone, qui était attendu dehors avec sa voiture et son chauffeur, tandis que moi je prenais le métro. Et ce qui veut dire que j'étais peut-être moi plus économe taxe carbone que lui. Et je voyais là le phénomène même de la perversité, de la perversion d'un sujet par une appropriation culturelle défectueuse, presque délinquante. Et ça, je vois ça partout. C'est ce qui explique aussi les ravages dont on parle, à juste titre, de woke, de la cancel culture, du post-MeToo, etc., avec des situations invraisemblables. Invraisemblables. Et ça devient pourtant des enjeux culturels dont on parle sans cesse et qui passent pour étant normaux. Vous me dites que beaucoup de jeunes regardent vos développements, vos émissions. Et je suis frappé de voir à quel point beaucoup d'entre eux sont complètement lobotomisés par la pensée générale, qui est complètement devenue, qui est devenue, qui n'est pas encore devenue folle, mais qui le deviendra, si ça continue comme ça, et qui en tout cas est totalitaire, c'est-à-dire interdit de penser autrement. Et ça me gêne beaucoup.
La pensée unique.
Pensée unique, oui.
La pensée unique, oui. Non, c'est. Et alors, en parlant des jeunes et des étudiants, quel est votre regard, je dirais, alors, est-ce que vous allez être d'accord, je ne sais pas, je dirais, sur cette nouvelle culture qui est l'intelligence artificielle?
Connais rien.
Vous ne connaissez pas. Mais alors, quel regard extérieur, si je puis dire, même si,
Écoutez,
quel est
j'ai déjà
votre.
beaucoup de mal avec ma propre intelligence. Alors l'idée qu'il y ait une intelligence artificielle en plus me laisse pas sceptique, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis sûr que j'admire énormément les progrès de la science, hein. Fantastique, la manière dont nous pouvons être en contact du monde entier grâce à Internet. Quand je vois ce que j'étais à votre âge et ce que je suis maintenant, quand je vois tout ce que j'ai gagné comme opportunité pour voir le monde et tenter de le comprendre, c'est fantastique. Donc, le fait qu'on puisse faire des téléphones avec des pièces qu'on ne voit même plus à l'œil nu et qui ont été construites comme ça, j'admire ça, je trouve ça fantastique. Mais être dans un wagon de métro et de voir que les trois quarts des gens sont penchés sur leur portable, ça m'inquiète.
Ça tue la relation sociale. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent tuer une relation sociale?
Mais tout ce qui est nouveau et ce qui est un progrès formidable peut devenir dangereux si c'est utilisé mal. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une formation morale, mais une formation, je crois que vous enseignez l'éthique, c'est d'avoir une formation morale très forte où dont le principal principe devrait être la remise en question permanente de tout ce qu'on nous enseigne et de tout ce qu'on nous montre.
Oui, c'est ça, c'est une remise en question. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc finalement, de.
Tout ce que je sais, c'est que je sais pas mal de choses, mais pas assez.
Oui.
Ah, je ne sais rien. Je sais pas mal de choses, mais pas assez.
C'est ça. Donc on est toujours en soif du savoir,
On essaye.
de la connaissance. On essaie. Vous m'avez dit quelque chose d'hyper intéressant avec toutes les opportunités que
Gentil.
vous avez eues. Vous avez tenté de comprendre le monde. L'avez-vous.
Est-ce que je l'ai compris?
Oui,
Ah
comment
non, pas du
l'avez-vous
tout, j'ai pas du tout
compris?
compris, non. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Je vois sans cesse surgir des nouvelles questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. On parlait de la cancel culture, on parlait de woke, on parlait de tout ça il y a quelques instants. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Et voilà.
Oui, c'est
Comment
ça,
se
c'est.
définir par rapport à ça? Donc sans cesse, je vois des nouvelles questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse.
Alors, il faut un
Mais il faut
équilibre.
qu'on. Ben oui, il faut un équilibre. Et quelquefois je suis troublé et je perds mon équilibre. Je lisais il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier, un interview du monsieur qui a eu le prix Goncourt cette année. C'était dans le Journal du Dimanche, qui est un journal assez bien fait, il y a des choses à lire. Et c'était très intéressant ce qu'il disait. Et il se retrouvait dans une sorte de scepticisme agissant qui n'est pas très différent du mien.
C'est-à-dire...
Ben, le scepticisme
Ah,
agissant.
d'accord.
C'est-à-dire le fait de n'accepter aucune des choses qu'on nous dit comme étant assurées et en même temps de les considérer quand même. Mais si vous. Mais la psychanalyse n'est pas un remède contre la bêtise. Hein.
Oui.
Bon, le problème de la bêtise, c'est qu'elle est très agissante. Quand je vois qu'il y a des gens encore qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est la bêtise. Alors la bêtise se nourrit de toutes sortes de choses. Il y a une intelligence de la bêtise, en somme, parce qu'il y a des tas d'arguments pour
C'est ça, oui.
ne pas le faire. Mais le résultat, c'est que c'est très bête.
Oui.
Très bête, ça met en péril des tas de gens, ça bousille l'économie.
Oui. Mais vous avez raison, mais alors, on parlait tout à l'heure d'équilibre entre la nature et la culture. Comment réagissez-vous à ce que dit notre ami Confucius?
Ah oui, c'est votre ami peut-être. Moi,
Enfin,
je ne l'ai jamais vraiment rencontré, mais.
moi non plus, à travers ses livres. Et
Est-ce
voilà
que
ce
c'est
qu'il...
sûr qu'il a dit ce que vous allez me dire?
Ben écoutez, en tout cas, vous allez réagir à ce qu'il a dit.
Peut-être.
Nature qui l'emporte sur la culture est frustrée. Culture qui l'emporte sur la nature est pédante. Seule leur combinaison harmonieuse donne l'homme de bien.
Oui, bon.
Ah, voyez.
Non, mais d'accord, s'il faut aimer la poésie, aimer les jardins, je suis d'accord.
Vous êtes un grand romantique. Non, mais je trouvais ça intéressant, cette citation, parce
Oui,
qu'elle,
elle n'est
voilà,
pas
elle...
très. Elle ne porte pas. Elle n'impose pas une pensée très originale. Peut-être que quand Confucius l'a émise au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était une pensée originale. Mais depuis 2500 ans, on l'a rabâché, donc j'y suis habitué, donc elle ne me surprend pas.
Oui.
Voilà.
Alors, Frédéric Mitterrand, vous avez été à la tête de la Villa Médicis il
Oui,
y a
pas très
quelques années,
longtemps,
entre
9 mois.
2008 et
Oui.
2009.
Oui.
Et alors, ma question est la suivante. Vous êtes je dirais, un ferveur défenseur de la diversité culturelle à l'international.
Oui.
Quelle est cette force de la culture à l'international? Est-ce que la culture, par exemple l'art, réunit toutes les générations et je dirais les
Non, pas du
différentes
tout.
ou divise-t-elle?
Non, il ne divise pas, mais elle segmente, pas du tout. Je ne me reconnais pas du tout dans la culture que pratique mon plus jeune fils, par exemple. Je ne comprends rien au football. Je ne connais pas la musique contemporaine. Par exemple, là, je suis fasciné de voir ces jours-ci l'engouement pour Léo Scarax.
Ah oui.
Bon. Dont la pensée est totalement vide et dont les références culturelles me sont totalement étrangères. Peut-être qu'elles existent, mais. Et bon, ben voilà, c'est un phénomène culturel important puisque les critiques du monde, ce PAM, ça c'est la culture Télérama par exemple, est catastrophique, une sorte de culture du consensus mou de gauche. Et ben voilà, mais c'est une culture, mais c'est pas la mienne. Donc est-ce que la culture rassemble? Ben non, ben je ne suis pas rassemblé par eux. Mais voilà.
Elle divise pas pour autant.
Bah oui, alors pour utiliser un terme à la mode, elle clive quand même. Hein.
Voyez, vous êtes contemporain, n'est-ce pas?
Ah oui, non, mais attendez, vous n'êtes pas venu pour m'entendre prononcer que des propos réactionnaires.
Non, mais c'est
J'essaie d'être
intéressant.
libre. Hein. Je trouve que Marc Fumaroli est plus intéressant que Léo Scarax. Voilà.
Oui, moi c'est dit, mais c'est... Non mais, alors, Frédéric Mitterrand, une autre question. Vous êtes un homme de lecture, de littérature.
Pas
Quel
tant que
est
ça, pas tant que ça.
votre regard sur la... De lecture, bien sûr, mais quel est le regard sur l'écriture inclusive? Comment
Mais je
la...
déteste.
Oui, mais
C'est
alors que...
épouvantable.
Oui?
C'est déjà tellement difficile de bien écrire en français, de bien parler en français. Est-ce qu'il faut en plus introduire dans la difficulté de l'exercice du français la nécessité de la dyslexie? Alors là, vraiment, c'est une folie totale.
Oui.
Complète folie.
Voilà.
Absurde.
C'est dit, mais c'est.
Ouais. Total.
D'accord. Et alors, au niveau. Je me pose la question en
Vous savez,
travaillant
c'est comme
beaucoup de.
la défense du français. Beaucoup de gens sont vent debout contre l'apport aux Français de termes anglophones. Je vois pas de problème. Hein. Quand le terme anglophone est meilleur que le terme français, il
Oui.
n'y a aucune difficulté. Quel est le terme qui correspondrait à zapping? Il n'y a pas. Alors le terme anglais est parfait, aucun problème. En revanche, l'appauvrissement du français avec la disparition du subjectif, du subjonctif qui a exprimé l'espoir, l'hypothèse, la disparition de la forme interrogative, même un grand écrivain comme Boualem Sansal, qui est un grand écrivain, l'a abandonné. C'est quoi ça? C'est quoi ces nuages? C'est quoi votre pensée? C'est quoi votre... C'est pas du français, ça.
Oui.
On a une langue qui est un outil. Cet outil, il a été forgé par des générations. Il est évident qu'il faut qu'il s'adapte. S'il a des mots qui lui manquent, il faut qu'il les emprunte et qu'ils deviennent siens. Mais est-ce qu'il faut, par ailleurs, abandonner ce qui, dans sa syntaxe, est une source de richesse, de précision et d'analyse? Non? Alors ça, ce sont des combats quand on les mène, lorsqu'on les mène, qui paraissent comme des combats d'arrière-garde. Mais non, ce sont des combats naturels. On parlait tout à l'heure de la destruction de la planète. Je suis très sensible à ça. Je suis terriblement, extrêmement sensible à la disparition de certaines espèces. Regardez, à Paris, il n'y a plus de moineaux.
C'est vrai.
Moi, j'étais
C'est
enfant, il y avait des
triste.
moineaux, il n'y a
Oui.
plus de moineaux. Ils ont disparu. En revanche,
Les pigeons.
Madame Hidalgo matraque les jeunes en voulant mettre une taxe sur les scooters, alors que c'est leur seul moyen de transport, et elle nous casse les pieds toute la journée avec de l'écologie punitive. Il faut mieux s'occuper des moineaux. Je me demandais pourquoi il n'y a pas de moineaux à Paris.
Ouais, non, c'est vrai, plus devant votre. Devant le
Plus
jardin, c'est
d'oiseaux à
vrai, il n'y a
Paris.
plus d'oiseaux, il y a des pigeons.
Oui, alors les pigeons, oui, c'est intéressant, les espèces qui l'emportent. Ça sera peut-être le cas dans pour l'espèce humaine, parce que ce sont les brutes plantées sur l'intelligence artificielle que vous
Mais voilà.
défendez,
Non, je la défends pas.
qui vont nous détruire. Ce sont les pigeons sont les brutes des oiseaux, donc finalement.
Mais voilà.
Quand j'étais à la Villa Médicis, il y avait des merveilleux petits étourneaux qui étaient en train de disparaître. Ils étaient chassés par les corneilles. Corneilles, c'est des sortes de corbeaux très méchantes qui bouffaient les œufs des petits étourneaux et qui les faisaient mourir et disparaître. Mais même le crime ne peut pas rester impuni, puisque à la fin de mon séjour, sont arrivées les mouettes. Et les mouettes sont encore plus méchantes que les corneilles.
Ah oui.
Donc elles ont chassé les corneilles.
Oh là là.
J'ai assisté en l'espace de 9 mois à la disparition des étourneaux, au règne fragile mais criminel des corneilles, et à l'empire grandissant des mouettes. Intéressant, non?
C'est extraordinaire.
Alors, est-ce qu'il faut que nous, sous prétexte de faiblesse intellectuelle et de paresse et d'abandon, on se laisse dévorer par les brutes et qu'on devienne comme les moineaux bouffés par les pigeons? Je suis pas sûr.
Non. Je pense que vous avez raison, en tout cas, vous résumez
En
bien
tout cas, oui,
la
pas
situation.
toujours, mais là, en
En
l'occurrence,
l'occurrence,
merci beaucoup.
je vous en prie. Alors, une autre question. L'interview va bientôt s'achever,
Déjà,
malheureusement.
oui, en
Mais
30
oui,
minutes. Qu'est-ce
ça
que
passe
l'homme,
très
vous
vite.
posiez la question, et vous vouliez qu'on trouve une réponse en 30 minutes,
Non, mais alors je vous reposerai la question à la fin, alors.
alors que c'est depuis la grotte de Lascaux qu'on cherche ce que c'est.
Mais et en plus, notre notre compagnon de route, n'est-ce pas, assiste à l'interview, c'est merveilleux.
Oui, en se grattant.
Voilà.
N'aimait pas d'intérêt particulièrement vif.
Bon.
Anita, arrête.
J'en suis profondément touché.
Alors, je pense qu'il est surtout intéressé par le sucre qui
oui,
se trouve en face.
C'est vrai. Alors, Frédéric Mitterrand, une autre question. En m'occupant beaucoup de jeunes et d'étudiants, je me pose la question et je me fais la remarque que les jeunes lisent de moins en moins.
Ce n'est pas absolument sûr. Ils lisent sur leurs écrans, ils lisent des journaux sportifs, ils lisent autrement. Je pense que la proportion de gens qui lisent, je ne suis pas absolument sûr qu'elle se soit effondrée. En revanche, les gens qui lisent des livres, est-ce qu'ils sont attirés par une littérature facile plutôt que par une littérature plus exigeante? Est-ce qu'ils ont abandonné la poésie définitivement ou pas? Je ne sais pas. La poésie est encore présente, mais plutôt dans la chanson. Je ne peux pas émettre de jugement là-dessus. Je ne suis pas sûr que les jeunes lisent de moins en moins. Mon fils, par exemple, ne lit rien. Rien.
Ni sur les écrans, ni rien
si,
du tout.
Justement, il ne lit rien de ce qu'on lisait avant.
Ah oui.
Mais autrement, il lit sur les écrans toute la journée et il lit des journaux sportifs et voilà. Donc, je ne suis pas sûr. Je dirais plutôt qu'ils n'écrivent pas.
Ah. Et pourquoi?
Parce que l'effort est différent, parce que précisément la langue leur manque, parce qu'il y a un effort qui est différent.
Et dans la lecture, c'est pas le même effort, il y a un autre effort quand même.
Oui, mais donc c'est pour ça qu'ils vont plutôt vers les écrans.
Mmh.
Mais le socle des gens qui lisent a très peu diminué en fait. Diminué, mais très peu.
Mais ils lisent des livres. Tant mieux, parce que. Ah oui.
Oui, très peu. Si vous parlez avec des éditeurs, pourquoi croyez-vous que les éditeurs se battent comme des chiffonniers en permanence pour promouvoir leurs auteurs? Mais parce que ça rapporte de l'argent.
Oui. Oui, mais alors.
Ça marche, ça rapporte de l'argent. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui lisent.
Oui, mais alors, ça, tout dépend des générations.
Enfin, c'est pas mal hein, de gagner de l'argent. Attention. Hein,
ah, mais ça, oui. Oui, c'est. On est tous. On souhaite tous en gagner.
Ah non, non, mais. Oui, on souhaite en gagner, mais enfin, ça dépend de la manière dont les gens.
Dont ils gagnent aussi.
Oui. Là. Les gens qui haïssent les riches, qui n'ont plus envie, c'est de devenir à leur tour.
Oui.
Et dès qu'ils le deviennent, ils.
Non, mais c'est vrai. Quel est votre. L'ouvrage.
Ils ne deviennent pas tous.
Oui, heureusement, hein, parce que. Quel est l'ouvrage que vous.
Heureusement, c'est horrible ce que vous dites.
Non, mais. Je plaisante, mais comme vous aimez la plaisanterie. quel est le livre que vous pourriez conseiller, que vous aimez le plus et que vous pourriez conseiller à la jeunesse d'aujourd'hui?
Les mémoires du général de Gaulle.
D'accord.
C'est romanesque, c'est l'histoire, c'est écrit d'une manière un petit peu, peut-être un peu trop romaine ou latine.
Oui.
Mais c'est un roman d'aventure.
Oui.
Et il y a des prolongements dans la société d'aujourd'hui.
D'accord, les mémoires du général de
Gaulle. Autrement, sur la route de Jacques Kerouac, ou le complexe de Portnoy.
Mmh.
Voilà.
Frédéric.
Son complexe.
Oui.
Parce que c'est assez sexe. Tout ce qui est sexe, c'est excitant.
Oui, on va droit au but. Frédéric Mitterrand, vous avez une très belle carrière, une longue carrière dans la culture, dans le cinéma, dans la télévision. Quelle est la place de la temporalité du temps dans votre existence? Comment concevez-vous le temps avec tout ce que vous avez fait?
Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes vraiment le fils que Jacques Chancel aurait dû avoir.
Et ben voilà.
Et ben voilà. Et Dieu dans tout ça.
Et ben voilà.
Et Dieu dans... On a trouvé le fils de Jacques Chancel.
Et voilà, c'est moi.
C'est lui, voilà. Et Dieu dans tout ça. Et la temporalité.
Non, mais c'est une question moi qui m'intéresse parce que. Voilà,
c'est une question qui est intéressante puisqu'on peut mourir dans une seconde.
Tout à fait.
Oui. Donc il faut y penser tout le temps.
Vous avez peur de la mort?
Non, je n'ai pas peur de la mort parce que quand c'est fini, et puis voilà,
Oui,
terminé.
oui.
Je n'ai pas peur de la mort. J'ai du chagrin de manière terrible quand les gens que j'aime meurent. Moi, je n'ai pas peur de la mort. J'ai pas envie de mourir, ça c'est autre
Oui,
chose, hein. J'ai
mais
envie de vivre, mais j'ai pas peur de la mort.
j'ai mal posé ma question en fait, parce
Non?
que si, parce qu'on n'a pas peur de la mort, on angoisse à l'idée de mourir ou de la mort, parce que la peur, c'est finalement quand on a déjà vécu l'expérience. Or, si on avait vécu l'expérience de la mort, on ne serait pas ici en train de causer.
Oui,
Donc, oui,
voilà.
donc on angoisse de la mort. Frédéric Mitterrand, l'interview s'achève. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que en votre compagnie, nous passons de bons moments. Non, non, mais c'est sincère. À tous les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, les milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser?
Quel message d'espérance?
D'espérance, oui, pour leurs études, leur avenir, voilà, ils viennent de passer, nous venons de passer des mois difficiles, etc. Quel message pouvez-vous leur adresser.
Baisez le plus possible et soyez gentils.
Bon, au moins c'est dit. Ah, au moins c'est dit. Alors, Frédéric Mitterrand,
Et soyez gentils.
oui, c'est le plus important.
Soyez bons.
Soyez bon.
C'est très difficile d'être bon. Ça s'acquiert avec le temps, mais soyez bon. N'hésitez pas quand vous êtes trompé, quand vous êtes mal comporté, selon un code moral qui est toujours compliqué à établir. N'hésitez pas à dire que vous êtes désolé. Et pour la première partie de mon conseil, allez-y carrément.
Au moins, ça c'est dit. Mais je retiens ce que vous avez dit, soyez bons. Les amis, soyez bons, comme vient de nous le dire notre ami Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, un très grand merci de m'avoir
Merci à
reçu.
vous.
Merci pour votre humour.
Oh.
Mais oui, votre humour, votre générosité. Merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer.
Encore une
Mais
citation?
oui,
Non,
exactement.
ça c'est qui? Attends, on a eu Confucius,
Voilà, on...
on a eu Edgar Morin,
Mais oui,
oui.
et n'oubliez pas,
Et on
parce
a
que c'est
commencé
quand
par
même...
qui
Et
déjà?
là, c'est Ernest Hemingway.
Ah oui.
Regardez ce qu'il dit, notre ami. Soyez amoureux, crevez-vous d'écrire, contemplez le monde, écoutez de la musique et regardez la peinture. Ne perdez pas votre temps, lisez sans cesse, ne cherchez pas à vous expliquer, écoutez votre bon plaisir.
Ben, c'est pas très loin de ce que j'ai dit.
Exactement. Et ben voilà, vous voyez, c'était extraordinaire. Vraiment un très grand merci. Et puis, merci pour votre amour pour l'humanité, pour la culture.
Non,
Et
pas de
merci
grands
tout
mots,
simplement,
pas de grands mots.
Frédéric Mitterrand,
Méfiez-vous des grands mots.
merci d'être qui vous êtes, tout simplement.
Voilà.
Merci. Merci beaucoup.